Je demande les frères d'appeler ça question et réponse pour la simple raison de suivre le modèle de frère Ron. C'est vraiment d'éviter la présomption quand nous n'avons pas toutes les réponses. C'est pas de nous mettre dans le questionnement, de dire qu'on a toutes les réponses. Alors, c'est juste d'avoir, c'est de demander saint de répondre, de partager vos expériences. En fait, c'est de partager nos expériences avec vous le plus possible que nous pouvons.
Par rapport à élever les enfants et les jeunes gens, on apprend rapidement que les gens ont leur propre pensée, leur propre façon de faire, propre culture, et les familles ont leur propre façon. Et nous ne sommes pas ici pour changer la culture ou critiquer les gens, les autres. Nous aimons tout le monde et nous voulons le mieux pour les saints. En fonction de cela, on va répondre aux questions. On va faire notre mieux pour répondre à toutes les questions. Donc, allons-y. Pour les parents qui ont des enfants en bas de 10 ans, quelle sorte de prière est-ce qu'on peut avoir avec eux? C'est ça la question. C'est par rapport à la connaissance prémature. Est-ce qu'il y a des prières qui sont trop superficielles ou bien est-ce que ne pas prier avec eux, c'est une option? Il y a une autre question qui parle de par rapport à invoquer le Seigneur avec les enfants. Donc, je vais parler un peu de ça à ce moment. La chose principale avec les enfants et leurs prières, OK. Tout le monde devrait prier. Chaque personne devrait prier. Chaque personne devrait avoir une relation avec Dieu. Nous, comme croyants, nous avons une relation en deux facettes. Comme créateur, on a une relation avec Dieu comme le créateur. Mais aussi, Dieu est notre Père. Donc, nous prions à lui d'une telle façon, dans une façon de vie. Et donc, les prières au Père sont différents. Aux enfants, Dieu est leur créateur, leur source. Et ils peuvent avoir une relation avec Dieu même avant le salut. Ils peuvent aussi apprendre après un bout de temps que Dieu les aime, s'occupe d'eux. Et ils peuvent prier pour Dieu pour des choses. Mais ça, c'est différent d'enseigner les enfants d'invoquer le nom du Seigneur. Ça, c'est différent. Ça, c'est après le salut. Avant le salut, c'est bien, c'est correct de dire Dieu, je t'aime. Même Seigneur, nous t'aimons. Mais c'est différent que « Oh Seigneur Jésus, je t'aime! » On essaie de faire exercer leur esprit, même avant leur salut. Mais le point c'est ceci. Tout ce qui prie devrait être authentique. On ne veut pas que leur prière soit une performance. Et pas que ça soit pas pour notre bénéfice. Ce que je veux dire, c'est on ne veut pas qu'ils prient seulement des paroles, des mots, parce qu'ils ils savent que vous voulez qu'ils prient ces prières-là. Et dans mon observation, j'ai déjà entendu des prières des enfants comme ça. Ils prient « Seigneur, bénis-nous aujourd'hui », et ainsi de suite. Mais c'est juste des paroles qu'ils ont entendues et ils répètent parce qu'ils ne savent pas quoi d'autre à prier. J'ai eu cette expérience-là il y a quelques années. Pendant notre réunion de prière, notre table du Seigneur, j'aime des fois pour aller juste voir un peu les réunions d'enfants. Juste pour observer. Souvent, c'est pendant la période de chant, comment les serviteurs conduisent le temps de chanson. Est-ce qu'il y a des serviteurs qui sont derrière sur les téléphones? J'aime juste observer. Et cette fois-ci, j'ai arrivé un peu en retard. Dans notre table du Seigneur, les enfants ont leur propre réunion. Et après la table du Seigneur, il y a des localités où ils sont dans la table du Seigneur avec les saints et après ils ont leur propre temps. Mais à New York, les enfants ont leur propre temps pendant notre table du Seigneur. Et donc, après leur temps de chant, ils vont dans leur propre groupe. Mais avant ça, avant de partir dans les groupes, les serviteurs disent « Qui aimerait prier? » Ils demandent quelques-uns de chaque groupe pour prier. Et je l'ai vu. Il y avait quelques enfants. Et donc, les serviteurs ont demandé à des enfants spécifiques de prier, à Tommy ou à Marc. Oh, est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Tu veux être bénévole pour prier? Oh, mais j'étais si... j'étais dérangé par cela. Moi, j'ai rien fait, j'ai pas interrompu. Mais pendant la semaine, j'ai appelé une des sœurs qui surveille si conduit les enfants. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on pratique ça chaque semaine? Et elle a dit, oui, on pratique ça parce que c'est ce qu'on faisait dans notre district avant. Et donc, je leur ai demandé d'arrêter cette pratique parce que ces enfants ils sont comme ça partout. Ils sont comme ça à l'école. Et ils sont ça comme ça ici. En fait, c'est très facile pour eux de juste pour faire quelque chose comme une performance, un spectacle. Et même, ça touche leur fierté. Parce que eux, ils sont ceux qui sont les bons enfants. C'est toujours eux, c'est toujours les mêmes qui prient. Si vous voulez qu'ils prient, au lieu de pour éviter de ceux qui sont gênés, vous pouvez les demander de prier dans leur groupe. Et c'est pas que sais, on a une fouette pour dire, ah, quelqu'un doit prier, hein, c'est comme une règle. Non, ça, on ne devrait pas avoir cette atmosphère de, ah, quelqu'un doit prier. Si vous voulez qu'il prie, ben vous pouvez prier juste quelque chose de simple. Et vous pouvez prier comme un modèle pour... vous pouvez prier comme « Merci pour amener Marc ici aujourd'hui. Merci pour sa famille. Nous te remercions pour Robert, pour son grand-père, et on a prié pour lui, et tu l'as aidé. » Cette sorte de prière devient un modèle pour eux. Des fois, je vois les enseignants, ils prient, « Oh Seigneur, merci pour ton sang. » Et c'est trop haut, la prière c'est trop haut. Ils ont besoin d'un modèle. Quand nous sommes avec eux, il faut baisser à leur niveau. Oui, ils peuvent prier. Et même, oui, ils devraient apprendre à prier. Ils devraient apprendre à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Mais ils ne sont pas encore sauvés. Mais tout le monde devrait remercier Dieu parce qu'il prend soin de nous. Parce qu'il donne la pluie et sur les justes et les injustes. Il bénit tout le monde, même ceux qui ne sont pas reconnaissants. Nous devons reconnaître Dieu, remercier Dieu. Il faut être des modèles à leur niveau. Et il faut apprendre à prier des prières simples à leur niveau. Les enfants apprennent par l'imitation. Ils ne comprennent pas beaucoup, mais il faut simplement être un modèle pour eux. Hein? En répétant, qui est maman, qui est papa, en répétant, à force de répéter, ils vont apprendre. Et ils vont imiter, ils vont vous imiter, qui sont leur modèle. Il y a des prières aussi qui sont trop superficielles. Peut-être, des fois, il y a les mères qui offrent des prières la nuit avant de coucher. Ma femme elle était comme ça. Elle priait avec mes trois enfants avant de se coucher. Et il a utilisé ce temps pour parler, pour leur parler comment était la journée, est-ce qu'il y avait des problèmes, est-ce qu'il y a des choses qui sont bien passées. Hein? Pendant ces moments-là, une nuit après la réunion, je suis rentré et ma femme a dit « quelque chose s'est passé avec notre fils ». Et après un bout de temps, mon fils a ouvert à nous. Et après que les deux filles se sont endormies, on a passé un peu de temps avec notre fils. Et on a raconté une petite histoire, on a lu une histoire avec lui, et il y avait une bonne atmosphère. Et on a prié un peu. Et il y a beaucoup de choses s'est passé pendant ce temps. Il y avait l'édification, il y avait une relation, on a bâti une relation. Il faut avoir beaucoup d'occasions d'avoir des conversations intimes avec les enfants. S'il y a une ouverture, ben, la prière peut être très, très authentique. Mais, ok. il y a des enfants qui prient comme ça. Merci, merci pour maman, merci pour papa, pour le chien, oh, merci pour c'est le toutou et tous les toutous, toutous-ci, toutous-ça. Merci pour beaucoup de choses. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien si vous avez le temps, si vous avez la patience. C'est des prières authentiques. Mais s'ils ont 8 ans et ils continuent à prier comme ça, mais peut-être il y a un problème. Mais il faut les aider à prier des prières authentiques. Une autre question. C'est quoi leur... C'est quoi leur rôle? C'est quoi le rôle des saints ou les parents plus vieux dans l'admonition et élever les enfants plus jeunes dans l'Église? Donc les familles qui sont plus jeunes, ils ont leurs propres enfants. Dans Timothée, ça dit que les sœurs aînées devraient aider les sœurs plus jeunes. Mais les jeunes sœurs, les jeunes mamans devraient être ouvertes. Ça serait si bien si on avait une atmosphère où les jeunes mamans, ils cherchent conseil des mamans plus vieilles. Comment est-ce que vous avez fait d'avoir cette atmosphère? Ce n'est pas si efficace quand on observe des familles plus jeunes et ils ont des problèmes avec leurs enfants et on offre une communion qui n'est pas demandée par eux. Ça peut causer des problèmes. Si on va à une jeune maman, j'ai observé la situation et j'aimerais offrir de l'aide pour vous. Ça, c'est un peu... Ça peut causer des problèmes. Il faut simplement prier et ne pas juger d'autres familles. Ne juge pas d'autres familles et ne prie pas des prières qui jugent. Vous savez, on peut prier des prières qui jugent les autres. On peut dire, « Oh Seigneur, regarde ce frère, et sa condition est si terrible, il est dans le monde, oh, entre dans sa situation, par ta miséricorde. » Mais en fait, nous, on les condamne. En fin de compte, on dit, « Oh, ce frère est si terrible, c'est sûr et certain, on ne devrait pas prier des prières en public. » Mais avec les jeunes familles, on espère qu'ils sont ouverts pour le conseil. Et ça serait bien si on peut rassembler les jeunes mamans avec les mamans plus vieilles pour communier, pour discuter, avoir de la communion par rapport à leur situation. Ça serait bien que les mamans plus vieilles aident les mamans plus jeunes avec leur erreur dans leur passé, de les raconter comment eux ils ont appris des leçons. Donc, je crois que les parents plus vieux sont une très bonne ressource dans la vie de l'Église. Ce soir, on va parler un peu de les réunions dans les voisinages, que les mamans, les grands-parents jouent un très grand rôle dans ces réunions. Il y a une question que... Il y a une sœur qui pose une question directement. J'entends pas bien. si on a une attitude dans la vie d'église, nous aimons tous les enfants dans l'église. Si nous avons cette atmosphère d'amour, toutes les familles seront ouvertes.
C'est parce qu'il est trop loin du microphone.
Non, je n'entends pas la question. Il y avait une question
qui... C'est parce qu'il est trop loin du microphone.
Ouais, c'est ça. J'ai pas entendu la question. Non, c'est pas... Ouais, on peut rien faire. Ouais. La question, c'est comment prendre soin d'un jeune, un adolescent qui vient plus aux réunions? Mon fils, en fait, il a arrêté de venir aux réunions pendant beaucoup d'années. Comment est-ce que je peux aider mon fils? Je crois qu'on connaît beaucoup de cas comme ça, où il y a des jeunes gens qui ont quitté la vie de l'Église. On va répondre à cette question d'une façon plus complète demain matin. Mais je vais dire juste un peu. La chose principale, c'est de les aimer. Aime-les. Et de ne pas avoir des attentes pour eux. Simplement les aimer. Ne les aimez pas pour qu'ils reviennent à l'église. Eux, ils peuvent sentir ce motif-là. Même, ne les invite pas aux réunions. Si vous les invitez aux réunions, invitez-les à votre maison. Mais pas à une réunion de maison, mais juste pour être chez vous, pour un repas. Et restez connectés à eux. Je l'ai mentionné un peu ce matin, qu'il y a des jeunes qui grandissent parmi nous. Et j'observe ça pendant plus de 40 ans. C'est comme ils ne peuvent pas attendre jusqu'à ce qu'ils ont 18 ans. Et même, ils veulent repousser la vie de l'Église. Mais, ça ne devrait pas être un paquet. Ça se peut qu'ils arrêtent la vie de l'Église, mais ils maintiennent une relation avec les parents. Mais ça repose sur les parents. Nous devons les aimer, peu importe la situation. Quoi que soit la situation, nous les aimons. Mon fils devrait avoir la réalisation que, peu importe sa condition spirituelle, je vais continuer à l'aimer parce qu'il est mon fils. Une fois, j'ai écrit une lettre à mon fils. J'ai dit, ça c'est avant que les courriels étaient populaires. Donc je l'ai écrit une lettre physique. J'ai dit, mon fils, je t'aime et je suis très heureux que tu es mon fils. Et pas comme ce tel jeune frère. Avec ce tel frère, il était si brûlant pour le Seigneur. Mon fils était pas si brûlant. J'ai dit à mon fils que je suis heureux que tu aies mon fils et pas l'autre frère. Je voulais l'encourager, de le faire savoir que peu importe sa situation, je l'aime. Est-ce que j'étais pas content avec lui dans quelques situations? Oui. Est-ce que je lui ai discipliné? Oui. En cours de route. Mais mon fils avait toujours l'assurance que je l'aimais. Et mon amour envers lui ne dépendait pas de sa condition spirituelle, combien de conférences il a assisté. C'est, des fois je vois, mais mon fils, pendant les conférences, et même moi quand je parle à des conférences, je vois mon fils, c'est difficile. C'est quand tu vois ton fils parmi tous les autres jeunes, en tout cas, nos enfants devraient avoir l'assurance que, peu importe leur condition spirituelle, qu'on les aime et qu'on aime. On aime être avec eux. Il y a des fois que on aime, c'est difficile à traduire. On aime les gens, mais en fait, on n'aime pas passer du temps avec eux. Mais on devrait avoir un intérêt pour eux. Hein? On devrait les aimer et on devrait avoir un intérêt pour eux. Il faut que nos enfants et les adolescents, ils ont des maisons où ils se sentent heureux. Ils peuvent se reposer chez quelqu'un, hein, chez des saints. Même quand ils sont plus vieux, ils vont se rappeler de leurs parents spirituels, leur maison qui ont pris soin d'eux. Il faut toujours prier. Et même, il faut être heureux quand les autres saints viennent pour paître et prendre soin de nos enfants. Avec mon fils, il y avait une période de temps où notre communication n'était pas si ouverte. Et je sentais qu'il était plus ouvert à maman. Mais même avec maman, on n'était pas très la communication n'était pas très bonne. Mais il y avait un autre frère qui l'invitait pour sortir ensemble, pour avoir un poisson, sortir ensemble, quelque chose, pour quelque chose comme ça. Et après une période de temps, c'est quand mon fils s'est réveillé et voulait poursuivre le Seigneur. Et depuis ce temps-là, on est très proches. Donc, il faut réaliser que des fois, je ne peux pas atteindre ou avoir une communication ouverte avec mon fils, mais je suis heureux qu'il y a un autre frère qui peut parler à mon fils, hein, qu'il y a une relation avec mon fils. Donc, en résumé, il faut les aimer, ne pas avoir des attentes et être heureux quand il y a d'autres qui peuvent les aider, qui ne sont pas nous. Ces jours-ci, je peux vous dire que depuis 4 ou 5 ans, je suis témoin que beaucoup de enfants, les enfants de beaucoup de saints, ils reviennent à la communion de l'Église dans beaucoup de localités. On prie beaucoup pour cela à New York. On prie pour un retour de beaucoup de jeunes et de saints. Mais ça va se passer dans différentes périodes, différentes étapes. Mais dans les dernières années, j'ai observé beaucoup de gens, de saints, qui sont revenus. Et dans beaucoup de cas, c'est en fait... OK. Ah, Il y a des cas où peut-être ils sont dans leur trentaine et ils ont leurs propres enfants et même leurs enfants sont leur motivation de rester dans la vie de l'Église, d'être actifs dans la vie de l'Église pour leurs enfants. C'est dans l'Église à New York, on a acheté un camp au nord de l'État de New York. Et en fait, c'est juste 4 heures et demie d'ici à Montréal, dans l'État de New York, au nord de New York. Et donc, dans cette région-là, on a élevé un petit chandelier, une petite localité. Et pendant une période de temps, ils se réunissaient au camp. Et on a fait ça parce qu'il n'y avait pas de souci de location, tout ça. Donc, dans une distance de 30 000, il y a 6 différentes familles. Donc, quand on a prié pour ce chandelier, cette localité, on a réalisé que cette famille habite ici. Cette fille habite là. Donc, il y a 6 familles qui habitent dans une distance de 30 miles. Parmi les 6 familles, ils ont tous des enfants, sauf une famille. Et il y avait donc la famille, la femme qui n'a pas de famille, ils venaient du Mexique. Mais en tout cas, donc on est juste allé les rendre visite, chaque famille. Et le jour qu'on a commencé l'église à cette localité, 5 de ces 6 familles étaient là. Et aussi, ils étaient à la réunion des enfants dans le voisinage. Donc, ils étaient très impliqués dans la vie de l'église. Juste dans cette petite ville-là, 6 familles. Dans les dernières années, je vois qu'il y a beaucoup de saints qui reviennent, Il faut prier pour tous les marques qui sont utiles pour le ministère. Ils ont un dépôt en eux. Leur retour dépend de notre attitude. Le frère Lee a un message classique que j'aimerais vous recommander. Je ne me rappelle pas du titre au complet, mais il y a 6 volumes dans les années 80. Le frère Lee parle de les points cruciaux, par rapport à la voie ordonnée par Dieu. Il y a 6 livres. Volume 4, message 11. Il y a un message qui parle de élever ou visiter ceux qui reviennent plus aux réunions. Et le fardeau de ce chapitre est de nous expliquer qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, quand on les rend visite souvent, on dit, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait quelques années. Peut-être que c'est le jour du Seigneur, on dit, tu as manqué une très bonne réunion, tu l'as raté. Non, on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas les faire sentir que, ils ne sont pas venus pendant si longtemps. Même on dit, Je suis si content de te voir. On met l'accent sur on n'a pas vu pendant beaucoup de temps. On ne le dit pas, mais on le donne l'impression que. Donc, le frère Lee passe à travers tout le message. Et peut-être vous allez poser la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait dire? On peut simplement sourire. Donc, quand on sourit, peut-être qu'eux, ils vont nous inviter chez eux pour boire un peu de thé. Et là, on peut avoir plus de communion. J'ai peur qu'on a cette attitude-là, qu'on donne l'impression que ils n'ont pas venu pendant si longtemps, ainsi de suite. Parfois, quand on voit quelqu'un qui n'est pas venu pendant longtemps, quand il revient à l'église, on a encore plus de joie qu'un nouveau croyant. Hein? Dans beaucoup de localités, il y a plus de saints qui ne réunissent plus que des saints qui sont présents dans la réunion. Il faut aller les chercher. Il y a une autre question ici par rapport à la réunion des enfants. Par rapport à la connaissance prémature, il faut s'assurer qu'on fait la bonne chose. Donc, nous, on demande les enfants de 5 ans ou 6 ans de mémoriser un verset en pratique de invoquer le Seigneur et de prier. On fait ceci pendant plus qu'un an. On se demande si ces pratiques-là sont dans la catégorie de connaissances prématures. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Dans beaucoup de localités, dans les 8 dernières années, après cette conférence, on a causé beaucoup de problèmes parce que les saints essaient de pratiquer les choses dans la conférence. Et même, il y a des anciens qui m'ont appelé un mois après la conférence pour me dire, frère, est-ce que tu peux revenir pour partager avec les sœurs? Parce qu'il y a des sœurs qui, ils ont interprété ce que tu as dit dans la conférence. Dans la réunion des enfants, on ne devrait pas enseigner la Bible parce que c'est la connaissance prémature. Donc, on ne devrait pas utiliser la Bible. Mais si vous n'utilisez pas la Bible, qu'est-ce que vous allez utiliser? Il faut utiliser la Bible. Donc, elle a complètement mal compris. Mais je ne les blâme pas. C'est notre manque de présentation claire. Oui, c'est correct de lire la Bible avec eux. Oui, c'est correct de les faire prier. Mais, oui. Même, oui, on devrait les aider à mémoriser la Bible. Même en leur donnant un verset, c'est pas la connaissance prémature. Mais dans ce livre-là, le frère Lee dit, il faut choisir le bon verset pour eux. Je vous donne un exemple d'un mauvais, un, mauvais verset. Une sœur a révisé une leçon pour la préscolaire de âge 3 ans et 4 ans. La leçon était sur la création. C'est excellent. Avec les enfants, on peut faire beaucoup de choses avec les leçons sur la création. Donc, il y avait une série de leçons qui suivaient les 6 jours de la création. Et cette leçon-là était dans une série de leçons sur le 3e jour. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? La terre s'est apparue. Il y avait plusieurs leçons sur le 3e jour. Vous pouvez passer beaucoup de temps sur le 3e jour parce que la terre, vous pouvez parler des frontières. Parce que quand la terre est apparue, il y a des frontières. Je viens d'apprendre que Montréal était une île. Juste, ça fait quelques mois, pas juste ce week-end, mais ça fait quelques mois que vous savez que mon beau-fils vient de Montréal. Il a grandi à Montréal. Donc j'ai appris cela. Donc ça veut dire que vous avez une frontière. Et dans ce monde, il y a des frontières. Chaque pays a ses frontières. Chaque continent a des frontières. Vous savez, c'est qui crée les frontières? C'est Dieu. Dieu crée des frontières. Ah, vous pouvez donner une très bonne leçon sur les frontières. Vous pouvez parler de les continents, vous pouvez parler de l'Australie, les frontières de l'Australie. C'est tellement de conflits dans ce monde, c'est à cause des frontières. Dans le Moyen-Orient, c'est le cas. Pour les Juifs disent « Ah, c'est telle frontière. Hein? » Mais les Arabes disent « Non, la frontière est comme ça. » Nous avons des frontières partout. Quand on a conduit ici en voiture, il y a des frontières, il y a des lignes, il y a des voies sur la rue. À la maison, on a des frontières. Maman dit tu ne peux pas avoir le biscuit juste faut attendre après le souper. Si vous croisez la frontière, vous allez être dans le trouble. Et il y a quelque chose qui nous aide à apprendre les frontières. C'est notre conscience. Et quand on croise la frontière, on franchit la frontière, on se sent coupable. Et ça, c'est notre conscience qui nous dit ça. Donc la leçon que la sœur préparait, c'était sur les roches, les pierres. Vous pouvez avoir des leçons sur les montagnes, sur la nourriture. Parce que la nourriture pousse de la terre. Vous pouvez avoir beaucoup de leçons. Cette leçon-là, c'était sur les pierres. Le but de la leçon était comme suit. De montrer aux enfants que Dieu est notre rocher sur qui on peut mettre notre confiance. Mais moi, j'ai dit, comment est-ce que vous allez expliquer à un enfant de 3 ans ou 4 ans que Dieu est votre rocher? Il faut penser à un enfant. si vous dites à un enfant que Dieu est une pierre, pour un enfant, ils vont penser, Dieu est une pierre? Dieu est une grosse, grosse pierre.
Oui.
Peut-être ils vont penser à un film, ah, qu'il y a une pierre, une roche énorme. Mais ça va confondre les enfants parce qu'ils pensent physiquement. Hein? Donc il faut faire attention. Il faut penser comme un enfant. Et le verset était un de mes versets préférés de Psaume 18. Que Dieu est notre rocher. Donc, mémoriser, c'est bien, mais il faut choisir le bon verset au bon moment. Un des frères... Un frère, pendant le souper hier soir, il a dit, enseigner les enfants, c'est pas facile. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Enseigner les enfants, c'est plus difficile que d'enseigner les adolescents. C'est plus difficile d'enseigner les étudiants collégiaux. C'est difficile, plus difficile que d'enseigner les adultes. Donc, on a besoin des bons versets. Le verset approprié. Donc, ces questions-là nous amènent sur le point de la connaissance prématurée. Nos enfants rendent à la maturité à différentes périodes de temps. Généralement, ils sont dans un certain groupe d'âge. Quand on les enseigne dans les réunions des enfants, il faut les enseigner dans une façon générale, mais il faut éviter la connaissance prématurée. Donc, il faut enseigner pour cibler ce groupe d'enfants. Ça se peut qu'un enfant demande à ses parents à la maison une question très complexe. Donc, à la maison, les parents sont libres pour partager quoi que ce soit avec eux. Les parents ne devraient pas penser qu'ils sont si avancés. On devrait quand même répondre à leurs questions à leur niveau. Mais on ne devrait pas aller à leur classe dans la réunion d'enfants et de les expliquer de la même façon. J'ai dit hier soir que moi j'étais sauvé à 7 ans. Et j'ai conduit, j'ai aidé mes propres enfants à connaître le Seigneur à 7 ans aussi. Et ils se rappellent de ces moments-là. Mais je ne les ai pas baptisés. Je ne les ai pas baptisés moi-même. Et je ne les ai pas encouragés à être baptisés si rapidement. Donc, ils sont tous baptisés à 12 ans. Et ils étaient avec les autres enfants pendant ce temps-là. Ils ont tous reconnu que à 7 ans, c'était quand ils ont reçu le Seigneur. Mais à 12 ans, c'était simplement leur confirmation. Et ils se sont joints avec les autres enfants. Donc, en tant que parents, nous avons toute la liberté de parler à nos enfants. Mais je dis encore, même avec les parents, on ne devrait pas être trop haut avec eux, complexe. Il faut être à leur niveau. Il y avait un garçon qui a lu la Bible deux fois avant la conférence de sixième année. Et les enseignants étaient si fiers d'eux, les parents étaient si fiers. Mais c'est très possible que un enfant comme ça, qu'il soit si glissant, hein, que rien ne va l'impressionner. Donc, il faut être, faut faire attention combien vous poussez les choses spirituelles quand nous sommes ensemble. Il faut faire quelque chose de plus général à la maison. Chaque enfant a leur temps de leur moment de vie. Hein? Peut-être pendant la réunion d'enfants, ils vont être conscients de leur péché. Si dans les réunions d'enfants, on les enseigne d'être les bonnes personnes, hein, de ne pas mentir, etc. Éventuellement, ils vont avoir une réalisation où je peux pas faire tout ce que vous dites, tout ce que vous enseignez. C'est là le moment de prêcher l'évangile à eux. C'est là le moment de les dire, de recevoir le Seigneur. Parce que vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas faire toutes ces choses parce que vous avez quelque chose qui s'appelle le péché. J'ai eu cette expérience avec une fille de 4 ans. Je suis allé visiter une église quelque part et une famille m'a conduit à l'aéroport et maman est allée m'acheter quelque chose. Et l'autre... Il y avait une autre fille qui était dans la siège d'auto et elle ne pouvait pas me voir. Elle a dit, maman va où? Et et j'ai dit, ah, maman est allée acheter quelque chose pour le frère Ricky. J'ai dit, maman et papa sont si gentils à moi. Et elle a dit, et moi? Est-ce qu'ils sont gentils à moi? Ou est-ce que moi je suis gentil? J'ai dit, oui, tu es gentil, tu m'as laissé coucher dans ta chambre, tu es si gentil à moi. Et j'ai dit, je crois que toi, tu es gentil à papa et maman aussi. Elle a dit, ben, j'essaie d'être gentil. Mais je ne peux pas toujours être gentil. Je ne peux pas toujours être gentil. Et j'ai dit, oh, mais ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, le Seigneur va entrer dans ton cœur. Il va te fortifier de faire ce que tu as besoin de faire. Elle a dit, pourquoi est-ce que je dois attendre? C'était bien que maman est revenue juste en ce moment-là et la conversation a changé. Ça, c'est un cas particulier. Et j'ai raconté cette histoire à sa mère et sa mère a prié avec elle. Les enfants ont leur propre temps de vie. Il faut les observer. Mais on ne devrait pas projeter cela sur tous nos enfants. On va juste interférer avec le Seigneur. Il faut simplement laisser le Seigneur travailler sur eux et de ne pas les imposer sur tout le groupe. Et par rapport à invoquer le nom du Seigneur, Je ne sais pas si, je ne crois pas que c'est profitable d'avoir les enfants invoquer le Seigneur dans un groupe comme ça. Parce que c'est quoi le but? Parce que le but d'invoquer, selon 1 Corinthiens 12, 11, personne ne peut dire Seigneur sans être l'Esprit Saint. Est-ce qu'ils peuvent vraiment toucher leur esprit à cet âge-là? Non, pas vraiment. Est-ce qu'ils peuvent connaître le Seigneur à leur âge? Oui. Mais est-ce qu'ils peuvent toucher leur esprit? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est prématuré parce qu'ils ne sont pas encore régénérés. Donc, on n'aurait pas à avoir l'attitude de « Allez les enfants, libérez votre esprit. » Non, ça c'est prématuré. Mais si on dit aux enfants de remercier le Seigneur, oui, mais ou si on a une activité le lendemain pour il y a une activité, on devrait prier on peut prier pour la température, la météo. J'espère que j'ai assez mentionné par rapport à ce sujet. J'ai entendu dire qu'on devrait enseigner aux enfants par rapport à la loi. Et je suis souvent trop strict par rapport à leur donner la connaissance du bien et du mal. Tu as aussi mentionné le sujet de la conscience. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce sujet-là? Quand on parle de la loi, est-ce que c'est une question de discipliner ou avoir une conversation avec eux? Est-ce qu'on peut terminer à 17h50? Oui. Dieu nous a créés avec trois parties. Dans Psaume 139, je suis créé d'une façon merveilleuse. Il nous a créés avec un corps, un âme et un esprit. Et chaque esprit, l'esprit de chaque personne, a trois fonctions. La conscience, la communion et l'intuition. Mais la fonction de l'esprit est inactive dans un non-croyant. Sauf la conscience. La conscience peut travailler dans les non-croyants. Mais la conscience, le mot conscience, en espagnol, il est probablement très proche du français, c'est la conscience, qui veut dire con, avec, science. Avec la connaissance. Donc, quelque chose en nous fonctionne avec la connaissance. Et nous, on a un sentiment avec une certaine connaissance. Nous, on a une prise d'électricité et il y a une petite indication de ne pas toucher. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est former leur les former. Vous avez déjà vu un enfant? Vous avez dit ne pas toucher ça, ne pas faire ça. Donc, et ils vont très proche de la chose et ils vous regardent avant de faire cette chose. Qu'est-ce qui se passe là? C'est leur conscience travaille. Ils vont pas juste aller le toucher, mais ils testent leur conscience et ils vous testent aussi. Qu'est-ce qui va être votre réaction? Et vous vous dites non. Il faut avoir la discipline après s'ils vous écoutent pas. C'est comme ça qu'ils apprennent. Quel genre de discipline? Ben, je ne sais pas combien dire par rapport à la discipline, mais je peux vous dire que Proverbe dit... Ce que dit le proverbe n'est pas très populaire. Proverbe parle de... Proverbe parle de la discipline physique. Il y a ceux qui parlent des... Il y a des parents qui disciplinent par des cuillères ou même des ceintures, mais c'est pas très populaire aux États-Unis. La Bible parle de la discipline physique. Mais bon, je vais pas parler de ça, mais l'éducation doit arrimer avec la conscience. Hein? La conscience travaille par l'éducation, hein? Par la connaissance. Donc, ça revient à un des points dont on a parlé ce matin, qu'il faut aider les enfants à prendre des décisions. Si, il faut être clair, si vous touchez cette chose-là, je vais frapper la main. Et s'il touche ça, ben, il faut faire ce que vous avez dit. Hein? Il faut implémenter ce que vous avez dit. Des fois, il y a des parents qui pensent que c'est pas approprié d'implémenter la discipline, ou bien ça prend trop de temps, ou bien ça, il y a des parents qui sont fatigués, hein, dans la discipline, et ils implémentent pas ce qu'ils disent. Et quand vous implémentez pas ce que vous dites, les enfants vont observer, et ça c'est une semence aussi. Les enfants, ils ont besoin de la cohérence, la consistance, quelque chose de régulier. Parce que vous formez leur conscience. Si nous implémentons pas ce que nous disons, les enfants vont... comment dire? Ils vont pas avoir des... Ils vont pas suivre des règles. Ils peuvent trouver des façons de éviter les règles. Ouais. En fait, faut avoir des conséquences claires. Si vous faites cela, telle chose va se passer. Si vous décidez à faire cela, vous choisissez ça. Donc, eux, ils portent la responsabilité de leurs actions. Ça, ça prend du temps. Les enfants ont besoin des frontières et ça aide à former leur conscience. Peut-être que je vais juste dire autant. Il y a une question très pratique par rapport à la vie de l'Église. En tant que serviteur, comment est-ce qu'on peut aider les enfants qui n'écoutent pas aux instructions régulièrement? Il y a peut-être un serviteur qui donne les instructions et tout le monde écoute, sauf un enfant. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, je sais ce que vous voulez faire, mais il ne faut pas faire ce que vous voulez faire. Il faut avoir un cœur à long terme pour cet enfant-là. Mais au moment où cet enfant n'écoute pas aux instructions, on est plus occupé par cette leçon que d'avoir le contrôle de la situation, le contrôle de la classe. Parfois, ça va avoir un effet domino, comme on dit. Ça peut induire plus de conséquences. On peut perdre le contrôle. C'est pour ça que c'est important de servir deux par deux, ou plus qu'une personne. Dans certains cas, je recommande qu'un serviteur prend l'enfant de lui parler à part, peut-être sortir de la salle et de lui parler. Souvent, on a trouvé que ce comportement est juste un symbole d'un problème plus profond. Et il cherche l'attention. Ils cherchent l'attention qu'ils ne reçoivent pas dans leur vie quotidienne. Ça c'est une réponse. C'est une réponse. C'est important pour les serviteurs de connaître les situations des enfants. Et donc, on devrait leur parler, avoir des conversations avec eux pour connaître leur situation, quotidienne, dans leur vie quotidienne. Ce serait bien de rendre visite même aux familles. S'il y a des problèmes, on n'a pas besoin simplement de traiter le problème pendant la réunion, mais il faut aller à la la racine du problème. Hein. Donc, faut avoir une relation, pas juste avec les enfants, mais avec les parents. Il n'y a pas deux côtés. Eux, les parents, et nous, les serviteurs. On est dans la même équipe. Les parents, les serviteurs ne devraient pas avoir le sentiment qu'on lutte avec les enfants. Lutte avec les parents, pardon. Moi, mon fils, il était... se comportait pas bien souvent dans la réunion des maisons, la réunion des enfants. Et il y a des serviteurs qui ont dit, ton fils, je suis surpris que ton fils a réagi comme ça. Donc, vous avez une attente envers lui qu'il se comporte d'une certaine façon. Mon point, c'est que ma femme et moi ont donné toute la permission aux serviteurs de traiter avec nos enfants. Et quand mon fils ou mes enfants à la maison, ils ont dit « Ah, tel serviteur a été trop sévère », nous, on s'est tenu avec les serviteurs. Donc, les enfants n'ont jamais créé une séparation entre les parents et les serviteurs. Nous sommes dans la même équipe. Donc, il faut avoir une bonne communion entre les serviteurs et les parents. S'il y a un cas qui se répète chaque semaine, nous devons tous se réunir pour avoir la communion, pour traiter la situation. Même, ça se peut que les parents devraient s'asseoir avec les enfants qui sont difficiles. Mais il y a d'autres cas que les enfants se comportent pire avec les parents-là. Donc, il faut juste avoir le discernement. Mais il n'y a pas de règles définies. Et au besoin, on peut avoir de la communion avec les anciens, avec certains cas difficiles. Le plus de communion qu'on a, le mieux c'est. J'aimerais une chose importante, c'est de connaître les enfants à l'extérieur des réunions. Si vous les connaissez à l'extérieur des réunions, ils vont réagir différemment avec vous pendant les réunions. Les autres questions vont être un peu plus longues, un peu trop longues de répondre. Peut-être je vais prendre cette question comme la dernière question. Nous avons besoin de l'enseignement de Dieu, les paroles de Dieu pour enseigner nos enfants. Pourquoi est-ce que Samuel, le prophète, qui a été élevé par Anna, pourquoi est-ce que les fils d'Eli n'ont pas écouté la parole de Dieu? C'est intéressant que Samuel a écouté la parole de Dieu. Nous savons que les enfants d'Eli étaient terribles. Moi, je ne sais pas. Je sais que c'est la miséricorde de Dieu. Comment nos enfants vont terminer. Je sais que Élie n'a pas assez discipliné ses fils. Il a vu que ses enfants ont fait des choses terribles, mais il ne les a pas corrigés. Il faut avoir la discipline. Mais la discipline doit toujours être mélangée avec l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire que de laisser faire ce qu'il veut faire. Mais à la fin, c'est la miséricorde de Dieu, comment les enfants vont terminer. Je sais pas comment Samuel, il était quelle sorte de parent, lui. Mais en tout cas, ça, j'espère que ça répond aux questions. Je suis désolé qu'on n'a pas assez de temps pour répondre aux autres questions. Amen.